Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Une rediffusion de l'émission Qui sème le vivant récolte l'urticaire, diffusée l'année dernière sur Radio Escapade. Bonne écoute.
Qui sème le vivant récolte l'urticaire.
Qui sème le vivant récolte l'urticaire.
Bonjour à vous, chers animaux humains qui m'écoutez ce matin sur Radio Escapade. Êtes-vous des humains standards ? Êtes-vous performants ? Votre génotype correspond-il aux attentes du système de production ? Avez-vous été sélectionné avec soin pour mieux servir de pâté au capitalisme galopant ? Celui-là même qui bouffe nos vies et nos corps jusqu'à 64 ans. Et votre nourriture ? Votre nourriture est-elle standard ? Est-elle calibrée ? Est-elle performante ? Dans l'émission d'aujourd'hui, je parlerai de l'écologie de nos assiettes en collant bord à bord des bouts d'histoire de végétaux et de vertébrés et de quelques trucs microscopiques ou de machins assimilés aux insectes. Ce sont les récits des trajectoires de nos compagnons non humains, vivants, proliférants ou menacés. Et elles s'entremêlent à nos mondes d'humains pour les chambouler, pour y être digérées ou pour leur perte. En m'inspirant librement des méthodes de l'ethnobiologie et de l'histoire environnementale, je veux vous emmener explorer les marges grouillantes de nos mondes civilisés, ses coulisses et ses artères vitales. Nos nourritures standards facilitent nos listes de courses, l'étiquetage, le rayonnage en supermarché, le conditionnement dans les usines de l'agro-industrie, le travail des machines dans les champs et le calendrier de nos agriculteurs et des éleveurs. Des êtres vivant, standardisé pour organiser l'alimentation à grande échelle de l'homo productivitus. C'est capitaliste. C'est pratique, quoi. Mais jusqu'à un certain point, parce que les êtres vivants standardisés, voire complètement homogènes, en grande concentration et dans des quantités se rapprochant à peu près de l'infini, c'est aussi le paradis des parasites. Le boulevard des épidémies est la porte ouverte à la consanguinité. La standardisation qui permet la production massive de notre alimentation est donc paradoxalement également l'une des plus grandes menaces de notre alimentation. Peut-on standardiser la biodiversité de nos espaces cultivés et élevés ? Peut-on survivre sans standardisation et seulement avec un peu de biodiversité, tout simplement ? Que racontent de nous nos stratégies pour conserver la diversité des non-humains animaux et végétaux avec lesquels nous collaborons pour nous nourrir ? Sommes-nous vraiment encore dans un rapport de collaboration interespèce ou sommes-nous rentrés dans une ère de l'administration du vivant par la génétique, une ère qui ne pense plus la vie mais qui compte les gènes ?
Qui sème le vivant ?
Récolte l'urticaire !
Les contours de l'agriculture actuelle ne sont plus à dessiner autour de la ferme et de ses champs, mais ont été façonnés par 70 ans de politiques agricoles à une échelle plus globale, intégrant chaque unité de production à la grande ferme France, pour ce qui concerne la France, et cela orchestré par le haut. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'administration publique agricole agit à travers deux grandes figures, le vétérinaire et l'agronome. Le vétérinaire pour les animaux, l'agronome dans les champs. Et désormais, il faut ajouter le contrôleur. Le contrôleur, il vérifie les standards et la bonne conformité du service production agricole, un peu comme l'éducation nationale à ses inspecteurs de l'académie, qui vérifie la bonne conformité de l'éducation des jeunes de notre nation. C'est Xavier Noyenne qui parle ainsi de l'agriculture, et notamment de l'élevage, puisqu'il est éleveur. Dans son ouvrage « Le ménage des champs », chronique d'un éleveur au XXIe siècle, il part de son expérience personnelle pour porter une réflexion générale sur l'absurdité de notre agriculture. Il évoque notamment son premier troupeau atteint de parabrucellose, une maladie mortelle réputée incurable, contre laquelle tous les vétérinaires ne conseillaient que l'abattage. Après des recherches assidues et quelques rencontres, Xavier Noyenne met en place une lutte dite intégrée, qui s'oppose à une lutte qui voudrait être totale, soit l'abattage massif du troupeau. Il change les habitudes alimentaires de ses chèvres, sélectionne ses chèvres et les soigne, et réussit à sauver son troupeau. Celui-ci continue à être atteint par la parabrucellose, mais il n'en meurt pas.
Pick your battles, obsessional tips. Bouncing off the bricks, it is what it is, everything slips. Sure you're gonna get it till you miss. Reduced to repetitive myths, pound for pound with the devil who kicks. Can't stop swinging but it never connects. I throw my whole body into nothing but mist. Face like a plate of raw meat, screaming I can't be beat. Half dead, ready to drop. Truth is I just wanted it all to stop. No matter how many times I shatter, how many times I break, it's not the end till the end comes. And when it comes it will be too late. So move, I'll fight you till I win. 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 Move, move. I'll fight you till I win. 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 Jumping at shadows, sketchy, smiling like nothing upsets me. It's upsetting, I drown it in silence. Fence myself in until nobody answers. Clutching the carpet and praying the tears like a storm breaking over a desolate plain. I was waiting for the moment when everything changed, but it never came. Eager to please, help. Help, going under, telling myself I won't settle for anything less than the best I can wrestle out of this tenuous vessel. I've seen the monster, I came out from under the bridge, even that didn't stop me. Long as I live, I will flounder, buckle and doubt, but I'll go round for round till the rounds run out. When it's all too late and the rain in the graveyard, plant my tree looking out over London. So many things that never came good, but I did what I could. Move, I'll fight you till I win. 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 Move. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win.
Move. More pressure, more release. C'était du coup Move de Kate Tempest, et que je voulais pour illustrer un peu la combativité de notre Xavier Noalienne. Il met en scène du coup dans son livre le conflit de savoir et de pratique qui se joue autour de sa bataille à lui pour sauver son troupeau entre d'une part la ferme et les autorités sanitaires. Entre la pratique, l'artisanat, la compréhension du territoire et de la complexité des êtres vivants qui le composent, et l'autorité sanitaire, ses standards et ses objectifs de production. Il assume ce conflit et il sauve comme ça son troupeau. Mais la sélection artisanale qu'il effectue, elle est menacée d'être illégale au regard de l'amélioration de la loi, dirons-nous, qui, à partir de 2006, demande que tout mâle qui sert à la procréation d'un troupeau soit agréé de manière officielle. Et les critères de cette sélection, décidés par l'autorité sanitaire, ne se rapportent pas du tout à la résistance potentielle aux pathogènes des troupeaux. Elles se rapportent simplement à la capacité de l'animal à produire un maximum de lait et un maximum de viande. Et donc, toute la petite sélection et du coup arrangement local qu'avait fait Xavier Noalienne pour pouvoir avoir un troupeau productif bien qu'atteint de parabrucellose se retrouve en quelque sorte à la frontière avec l'illégalité. Il devrait donc, selon les nouvelles normes, utiliser des mâles étrangers à son territoire, étrangers à ses sols, à l'alimentation de ses sols et aux parasites qui y vivent. Et ce serait donc rendre le troupeau incapable de vivre avec la parabrucellose, utiliser ces mâles un peu comme hors sol pour inséminer son troupeau. Ce serait en somme condamner son activité à une agriculture dans son entièreté hors sol. Et du coup, pour l'auteur, pour Xavier Noalienne, ce serait un peu la fin de son travail. Ce que lui se pose comme question, avec ses brebis, sont des questions qui se posent pour tous les animaux d'élevage. Comment continuer à travailler avec le vivant quand toutes ces normes voudraient que les animaux soient des machines ? Comment avoir des populations saines et diversifiées quand l'idéal type est unique et que la sélection d'individus, parfois organisé à l'échelle mondiale, s'accélère toujours plus. Pour aller plus loin, je voulais prendre l'exemple de la Primolstein, la Rolls-Royce des vaches laitières. C'est la variété de vaches la plus répandue sur la planète. Et pourtant, elle est confrontée à des petits problèmes de consanguinité. Je vous ai préparé un petit collage sonore pour vous faire un portrait de cette vache globale. On écoute.
Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Vous allez assister au concours général agricole 2020. Il regroupe, comme vient de le dire Benoît, les 115 meilleures vaches laitières Primolstein de l'Hexagone. L'effectif national étant de 2,5 millions de vaches laitières, autant vous dire que de fouler le sol de ce ring est déjà un exploit.
Voilà, chers amis, j'ai une gagnante évidente dans cette classe, une vache qui nous démontre beaucoup de force, de solidité, un très bon compromis dans tout l'agencement de son squelette. Une vache qui nous démontre aujourd'hui beaucoup de longueur, beaucoup de solidité également dans l'agencement de son bassin. Une vache qui se démarque également par rapport à la qualité de son ossature, beaucoup de qualité dans les membres. Félicitations pour cette très belle première de classe. Elle l'emporte sur la deuxième par rapport, je dirais, à son ouverture de côte. Une vache aujourd'hui plus ouverte dans sa première côte et également la qualité de sa marche, de ses qualités. Au niveau de ses membres supérieurs sur la vache en première que sur la belle vache en deuxième position. Ma vache en deuxième aujourd'hui, une vache très bien équilibrée, très solide également dans son dessus. Je lui donne l'avantage par rapport à la vache en deuxième position, par rapport à la qualité de son pis. On a un pis aujourd'hui un petit peu plus souhaitable, désirable pour une vache en première lactation. Et c'est sur ce poste-là qu'elle gagne sur la vache massive en troisième position. Retenue pour le prix de la meilleure mamelle, la première et la deuxième, messieurs, dames.
Il faut savoir que la Primolstein, c'est la vache la plus élevée en région de France.
La Primolstein est arrivée en France au début du XXe siècle. Donc elle est d'origine des Pays-Bas, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la race hollandaise. Donc elle s'est vraiment développée après la Seconde Guerre mondiale, puisque voilà, c'était la période d'après-guerre. Il fallait reconstruire l'agriculture, il fallait donner à manger aux habitants, et donc la race Primolstein, qui produisait beaucoup de lait, était vraiment adapté à cette période-là pour donner à manger à tout le monde.
Alors vous dites qu'on s'intéresse beaucoup à la biodiversité entre les races, mais que par contre, on sous-estime l'impact que peut avoir donc le manque de diversité à l'intérieur même d'une race, et que cela pourrait quelque part affaiblir, voire créer un risque pour la Holstein, par exemple, par une forme de consanguinité.
Actuellement, on dit que toute la population Holstein est issu de 9 grands reproducteurs mondialement reconnus et qui sont originaires plutôt de l'Amérique du Nord. Et ça fait partie justement de cette dimension de globalisation de la vache.
On a l'amour de la vache, nous aimons la génétique profondément, nous aimons les belles vaches, mais aussi nous voulons des vaches qui produisent. Parce que pour nous, la vache laitière est quand même une vache, et la Primolstein en particulier, une vache qui s'est développée pour ses qualités-là. Et
donc du coup, on va pousser le pistolet. Voilà. Et on met la paillette. Et voilà, notre vache est inséminée.
Voilà, il y a des paillettes qui circulent à travers la planète et nos vaches sont inséminées, peut-être grâce à 9 reproducteurs cachés quelque part dans des fermes en Amérique du Nord. Mais les végétaux ne sont pas en reste. Les végétaux, eux aussi, sont standardisés, eux aussi mis au pas du progrès et sont devenus en fait une industrie. Avant d'être une industrie, un commerce et des marchandises, les semences étaient largement produites à la ferme par les paysans eux-mêmes, pour leurs propres besoins ou pour les partager avec leurs pairs. Donc, souvent, généralement, ils choisissaient, parmi les récoltes, les grains les mieux nourris, qu'ils avaient récoltés sur les plus belles plantes ou les plus beaux épis, et ils les mettaient de côté pour les semis de l'année suivante. C'est la méthode dite de sélection martiale, et on pourra tout simplement dire entre nous que c'est la méthode de sélection artisanale. Ces semences, qui étaient du coup sélectionnées de manière artisanale, varient fortement en fonction des milieux, des savoirs, des pratiques, des formes de sociabilité qui structurent les sociétés de paysans ici ou là, en France et ailleurs. Et au début du XXe siècle, c'est un métier qui va sortir de la ferme et qui va se professionnaliser. On va, par exemple, petit à petit mettre en place le concept de variété lignée pure. La lignée pure, c'est une variété qui est conçue comme ne variant pas génétiquement, non susceptible de se modifier sous l'action de l'environnement et des pratiques. Elle est stable dans le temps. C'est plus une population d'individus qui se maintient à travers une variété d'individus. C'est un individu optimal qui se maintient dans le temps. Et ces lignées pures, elles instaurent donc une coupure entre cette sélection qui était empirique, artisanale, et cette sélection beaucoup plus scientifique. La production des semences sort alors peu à peu du cycle des cultures pour devenir un pur produit technologique. Et petit à petit, puisqu'on ne peut pas transporter le champ à l'usine pour le faire travailler à la chaîne, on va pouvoir, notamment à travers ces lignées pures, standards, calibrées et prévisibles, en quelque sorte, amener l'usine au champ et mettre au pas l'agriculture. On va écouter Green Apocalypse de Yom et Wang Li, puisque je pense que c'est d'à propos. Green Apocalypse, parce que ces semences ne sont pas juste un nouveau marché juteux, ce sont en fait le cheval de Troie d'une nouvelle agriculture et de son rapport au monde. Ces semences, sélectionnées de manière scientifique, améliorées génétiquement, représentent in fine une perte d'autonomie technologique pour les paysans. Cette énorme infrastructure, très centralisée et verticale, qui se propose d'extérioriser la production des semences, eh bien, en fait, elle exerce un encadrement de la biodiversité cultivée autorisée. Elle exerce un contrôle sur l'agriculture que l'on peut faire. Et c'est un cas très bien illustré par Henri Mandra, qui s'est proposé d'être l'historien de l'agriculture française et qui raconte dans un de ses ouvrages le cas des paysans des Pays Basques qui ne veulent pas abandonner leur grand maïs roux au profit du maïs hybride qui leur est présenté comme l'avenir, comme la technologie, l'amélioration variétale. Mais ces paysans des années 60, ils ne sont pas juste effrayés par la nouveauté. Ils ne sont pas juste désorientés. Ils ne sont pas contre le progrès. Ils sont au contraire très, très conscients qu'abandonner le grand maïs roux, dont ils ont l'autonomie de la reproduction des semences, pour adopter ce maïs hybride qu'il faudra acheter chaque année, c'est en fait rentrer dans un système de vie complètement bouleversé. C'est rentrer dans le système de l'endettement, dans la dépendance à un marché de fourniture et en fait perdre leur autonomie et leur vie de paysan pour rentrer dans celui de l'agro-industrie. Aujourd'hui, l'un des plus grands projets pour la conservation de la biodiversité de nos végétaux à l'espace mondial, eh ben, il se situe dans l'archipel du Svalbard, à quelques centaines de kilomètres du cercle polaire arctique. Et moi, je trouvais ça très étonnant que l'avenir de la vie de nos végétaux, ben, ça se passe sur un bout de terre gelée, peuplée essentiellement d'ours polaires. Et pour ça, je vous ai préparé un autre petit collage sonore qui vous présentera sous ses différentes facettes ce grand projet du congélateur de semences de la planète.
Bien au-delà du nord de la Norvège, voici Svalbard. Seulement 1300 km séparent l'archipel du pôle Nord. À notre droite, on aperçoit un bloc de béton qui émerge de la montagne. C'est le but de notre visite.
En plein cœur de l'Arctique, il existe un coffre-fort ultra sécurisé. Il n'abrite ni or ni argent, mais des semences d'arbres et de toutes les cultures vivrières de la planète. Cette banque de graines est surnommée l'Arche de Noé végétale. Unique au monde, ce bunker a un objectif précis, permettre à l'espèce humaine et à la nature de survivre à un cataclysme.
Sa conception tient plus d'un film de James Bond que d'un grenier à blé. Des milliers de graines, de blé, de maïs, d'orge, de riz provenant des quatre coins du globe. Elles vont être stockées dans l'un des endroits les plus sûrs et les plus fermés de la planète, le Global Seed Vault, ou la chambre forte mondiale des semences. L'édifice, creusé dans la montagne, n'ouvre jamais ses portes, sauf pour recevoir des échantillons de graines. Devant nous, la chambre froide, là où sont entreposées les graines.
Et maintenant, il va faire moins 18 degrés.
Ce qui est génial avec cette pièce, c'est qu'en face de vous, vous avez 12 000 ans d'agriculture. Vous avez les arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mères de vos tomates. Et vous avez le blé qui pousse aujourd'hui dans nos champs. Tout ça dans la même pièce.
Moins 18 degrés, c'est la température idéale de conservation de ces semences végétales venues du monde entier. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, le permafrost fond. En 2017, cela a provoqué des infiltrations d'eau dans le bâtiment, ce qui a obligé la Norvège à faire de gros travaux pour garantir son étanchéité. Maintenant, il peut aussi résister au réchauffement climatique.
Je ne résiste pas à l'envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a une immense arnaque qui est en train d'être faite dans une île de Norvège. L'île s'appelle Svalbard. On a fabriqué des grands souterrains, des frigos souterrains dans lesquels on prétend qu'on va faire une arche de Noé végétale et qu'on va mettre des graines de toutes les formes cultivées actuelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, vous voyez là, typiquement, le mensonge monstrueux. Il ne s'agit pas du tout d'une arche de Noé, il s'agit d'un immense cimetière à graines. Quand vous mettez des graines dans un frigo, elles se maintiennent plus longtemps que si vous les mettez dehors, simplement elles finissent par mourir. Donc toutes les banques de graines coûtent horriblement cher à faire fonctionner parce qu'on met les banques dans des frigos, mais régulièrement on les ressort, on les fait pousser, on récolte les graines, on les remet. En plus, on perd de la variabilité à chaque fois qu'on fait ça, mais enfin au moins ça se maintient en vie. Vous croyez qu'on va prendre toutes les plantes de la planète et qu'on va les faire pousser sur un truc complètement gelé en Norvège pour rejuvenir les graines? Pas du tout. En fait, je me suis renseigné, on va les laisser mourir toutes ces graines. On va avoir un immense frigo plein de graines mortes. Qui peut bien vouloir faire un truc pareil? Eh ben, qui sont les actionnaires de ce machin? Ah tiens, il y a Monsanto, Syngenta, etc. À quoi ça sert, ce machin? Ça sert à dire... Bon, on va foutre en l'air toute la diversité des plantes cultivées, parce que maintenant, avec le brevet machin, on va s'approprier tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est dans le frigo. Hein, maintenant, c'est dans le frigo, c'est mort. Et éventuellement, peut-être un jour, on aura effectivement besoin de recréer une plante qui est là-dedans et qui est morte. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour la recréer? De la biologie synthétique super dure. Donc, développons les technologies à fond, parce qu'on va en avoir besoin pour ressortir les gènes. En fait, c'est pas une banque de graines, c'est une banque de gènes. Hein. Et on va avoir besoin de biologie très très violente pour pouvoir... Donc on... Vous voyez, là, on est dans des dalles à fond. Hein. C'est-à-dire, je suis en train de foutre en l'air toute la diversité de la planète, mais je vais développer la technologie qui me permet de ressusciter des graines que j'ai laissées mourir dans un frigo souterrain. Voilà, en gros, la logique.
Voilà, vous venez d'entendre, après toutes ces présentations très enthousiastes des journaux télévisés français du projet Svalbard, Pierre-Henri Gouillon, un biologiste spécialiste de la biologie évolutive, nous parler d'un autre point de vue de ce projet. Si je résume, il y avait des pratiques, des savoirs et des cercles de socialisation qui permettaient de faire vivre à côté des populations d'humains, des populations de semences et une biodiversité d'humains et de cultures. Il y a eu l'émergence de l'industrie semencière et désormais, il y a les congélateurs dignes de James Bond. Parfois, on a presque l'impression que ce sont des spéculations, que ce sont des projets de spéculation sur la fin du monde tel qu'on le connaît, où la biodiversité ne serait plus un bien commun, mais une source de richesse potentielle. Et oui, si jamais demain, eh bien, avec le réchauffement climatique ou le changement climatique, tout venait à disparaître grâce à ces congélateurs de James Bond, eh bien... Cette diversité qui n'existe plus nulle part ailleurs pourrait être vendue à fort prix. Et donc, contre cette monopolisation, concentration de la biodiversité, et surtout contre cette amnésie forcée des savoir-faire et de la pratique que nous propose cette vision de la conservation de la biodiversité, il y a des croqueurs, il y a des mordus qui essayent de faire vivre d'autres rapports à la semence et d'autres rapports au végétal. C'est ainsi qu'on va opposer la conservation hors sol et la conservation in situ. En particulier, je voulais faire un petit détour par... les croqueurs de carottes, qui ne cultivent pas ici des carottes, mais des haricots, et qui sont confrontés à un méchant pathogène, le xanto. C'est une généticienne qui s'essaye à la sociologie, et ses collègues, le premier auteur de cet article, c'est Kladke, et l'article s'appelle « Les artisans semenciers, les haricots et leurs agents pathogènes, la biodiversité cultivée et la santé des plantes au cœur d'une identité professionnelle ». Les croqueurs, ici, sélectionnent des variétés artisanales, des semences artisanales d'haricots. Et ils sont confrontés à une forte prévalence de ce pathogène, le xanto, dans les semences qu'ils distribuent et que donc les paysans qui travaillent avec eux retrouvent également dans leurs champs. Le xanto se trouve être un pathogène catégorisé de quarantaine, qui est donc, ça veut dire extrêmement légiféré par la loi française. Et donc l'autorité sanitaire a un pouvoir très important sur nos petits artisans semenciers. Cependant, le xanto est présent partout en France. Or, la loi qui se réfère au pathogène de quarantaine, elle est surtout... très fortement applicable lorsque les pathogènes sont exempts du territoire et qu'il s'agit alors de protéger un territoire encore vierge. Or, dans le cas des haricots et du xanto, ils sont tous les deux tout à fait présents en France et C'est ainsi que les artisans semenciers qui étudient Kladke et ses collègues ont réussi à se ménager une petite zone grise pour pouvoir argumenter qu'eux arrivent à vivre avec le xanto. De tout cet article, il en ressort que ces artisans semenciers ils considèrent les souches de haricots comme le résultat d'une coévolution entre les plantes, le territoire, les pratiques et la santé des plantes. Ils considèrent tout ça comme, en fait, des interactions. Des interactions qui, si elles s'arrêtent, arrêteront d'être pertinentes. Des interactions qui arrêteront d'influencer une biodiversité qui sera opérante. Des interactions qui, si elles sont mises dans un congélateur, vont en fait permettre de conserver une biodiversité qui, lorsqu'elle sera sortie du congélateur, sera peut-être tout à fait inutile, peut-être tout à fait inutilisable. Et donc, pour eux, finalement, la conservation in situ, aussi du coup catégorisée comme la production de semences artisanales, en fait, c'est un mode de faire, c'est un mode de rapport au vivant, et c'est pas une pratique marginale et poétique. Pour eux, la santé des plantes, c'est pas l'absence de symptômes, mais c'est plutôt un équilibre où la nature du sol, la vie microbienne qu'il contient, les propriétés climatiques du lieu et les attentes du producteur, eh bien, elles s'accordent. Parce que, ouais, le producteur, il peut accorder 10% de pertes aux pathogènes, enfin, ou plus simplement à la vie microbienne des sols. On est donc loin d'une approche standardisée. C'est d'ailleurs en fait tout l'inverse. Et cette petite considération me donnait envie de vous partager ce chant de femmes qui est du coup qui a été écrit par les femmes du camp pour la paix de Greenham Commons. C'était une occupation pacifique et illégale qui a eu lieu entre les années 80 et 2000 autour de la base de missiles nucléaires de la Royal Air Force de Greenham. Et vous me direz quel est le rapport. Eh bien finalement, en fait, ces femmes et leur chant pour la vie et ces croqueurs et leur sélection artisanale de haricots, eh bien, pour moi, ils se rejoignent dans un chant pour la vie. Donc, on écoute ce chant polyphonique.
They can't forbid me everything, but they can't forbid me everything.
c'était Can't Forbidden Everything, qui était ici interprété par Bonnie Degen. On s'approche donc de la fin de mon récit. Et j'espère que vous m'aurez suivi dans mes réflexions et défense de la vie telle que j'aimerais la voir continuer à vivre, à être conservée, la vie collaborative et non pas la vie chacun de son côté, les humains partageant des communautés riches et diversifiées, échangeant des semences et des animaux riches et diversifiés plutôt que des humains standardisés d'un côté et des frigos de l'autre, plus loin des étables hors sol. D'ailleurs, pour m'aider à finir cette émission, je voulais citer un grand scientifique, j'espère que vous reconnaîtrez.
Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. Non, non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.
C'était donc le scientifique Malcolm dans Jurassic Park. Et puisque, à côté des humains, à côté des semences et des animaux, il y a aussi les tracteurs, nous allons lancer le magnifique morceau de, ou plutôt le énergique morceau de, du groupe Tracteur qui s'appelle Halili.
Allô, allô. Le roi Charles V et trois font lui. Un petit ramoneur de rien du tout. De rien du tout. Le roi Charles V et trois font lui. Le roi de rien du tout. Le roi de rien du tout. Thank you.
Vous l'avez entendu ? Même les tracteurs. Même les tracteurs sont en colère. Et désormais, il nous reste à tous de faire monter cette même colère, de prendre nos fourchettes et nos couteaux, de commencer la bataille dans nos assiettes et de nous battre en quelque sorte pour la vie de nos compagnons non humains, végétaux et animaux, mais en fait de commencer à se battre pour notre vie à nous, pour qu'on puisse continuer à manger.
Qui sème le vivant récolte l'urticaire.
Qui sème le vivant récolte l'urticaire.
On ne parlera pas de n'importe quel palmier, mais de l'incroyable Eleanis guineasis, le palmier originaire du golfe de Guinée, que vous connaîtrez sûrement plus sous le nom de palmier à huile. Les sous-sous de Guinée maritime, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, se considèrent comme les enfants du palmier. Ils se nourrissent de la chair de son fruit et cuisinent avec son huile rouge, presque dorée.
En France, ici, j'ai entendu que l'huile de palme n'est pas bonne pour la santé. Bah, j'ai pas cherché à comprendre parce qu'on est né dedans, donc on a toujours mangé l'huile de palme et on a une bonne santé.
L'huile, c'est bon, on peut consommer dans tout. Même les bananes plantains. On peut prendre, tu peux prendre banane plantain, tu fais bouillir, tu fais ça, ça donne un effet, tu peux mettre huile rouge, ça donne foufou. C'est comme une nourriture en Côte d'Ivoire. Même la tchéké, tu peux mettre, on peut mettre l'huile rouge dedans, ça donne une autre. On appelle ça quoi. Il y a plein de choses au fait. Mais c'est un truc, c'est naturel, c'est mieux quoi. C'est mieux à consommer et puis c'est bon.
Est-ce que ça a un goût particulier l'huile rouge?
Bah oui. Oui. Si tu prépares avec du condo, il y a un goût, même si tu manges ça, tu vas sentir c'est un truc du pays en fait, tu vois. Par rapport, parce que c'est naturel, on n'a pas mélangé, on n'a pas raffiné ça ou mettre de quoi que ce soit. Donc c'est naturel quand tu prépares ça. Même si quand tu es en train de manger, donc tu vas savourer ça, tu diras vraiment waouh, ça c'est des bio. Tu vois, non, c'est ça la différence. Parce que il y a des autres aussi qui aiment préparer aussi le pondu avec l'huile normale comme ça. Mais par contre, avec les sarasaka, huile rouge, c'est au top quoi. Parce que quand tu manges, donc tu sens vraiment tu manges dans les trucs des pays. Donc tu manges vraiment, non, c'est bien. Un jour si tu veux, tu peux essayer. Oui.
Vous avez préparé un peu l'huile du coup?
Oui, oui, oui. Moi, quand j'étais en Afrique, je faisais ça tout le temps. C'est efficace, c'est très bien, c'est naturel en fait.
L'huile de graines encore qui est très très bon aussi.
Il y a l'huile de palme qui est rouge et il y a l'huile des graines de palme. L'huile des graines de palme. Ouais.
Ça n'a rien à voir avec l'huile des palmes. Ça aussi, c'est on les appelle les amandes des palmistes. Ça aussi, ça donne de l'huile. Ça, c'est 100% naturel et bio. On fait sortir de l'huile, on fait du savon, on fait de la pommade et on prend aussi pour faire, pour cuire, pour frire la loco. Ou soit frire la viande, faire la sauce, tout ça, c'est bon.
Il y a l'huile rouge et l'huile de friture.
Voilà.
Moi, ça aussi avec les pains.
Oui, 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 avec du pain. Huile de palme. Huile de palme, elle est vraie, vraie.
Tu bien mets raffinée. Ça comme ça.
Tu mets ça comme ça, oh comme là du beurre.
Comme lorsque tu vas manger.
Là, tu me rappelles les trucs de pays, là. Tu me rappelles les trucs de pays, je te jure.
Huile rouge, il y a quoi encore?
Tout banane,
foufou. Il y a huile rouge, on peut faire un gombo. En fait, beaucoup de choses. Même si tu as consommé du poison, que tu vois, tu bois huile rouge, tu rends tout.
Quand on est constipé et tu prends l'huile de palme, ça nettoie. Voilà, ça nettoie et puis...
C'est bon pour la peau.
Pour la peau, ça trop passe. Bien. Donc, même si toi tu achètes ici de crème de 100 euros, moi j'utilise ça. Ça passe. Même si tu vois la couleur de ma peau, Donc, trop bien. Ça,
chez nous, le nouveau-né,
huile de palme.
Huile de palme, tu vas lui mincer, mincer. Donc, la faille va être lisse et puis.
Grandisse très bien.
Donc, c'était un petit collage sonore d'un micro-trottoir que j'ai réalisé il y a de ça quelques temps. Pas du tout en Afrique, mais dans les restaurants africains d'Aubervilliers et autour de la station de métro Château d'Eau à Paris. C'est une zone de forte concentration et d'extraordinaire représentation de toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était le meilleur endroit au monde pour parler des douceurs culinaires du palmier à huile. Pour continuer à vous expliquer, par le goût, les paysages d'Afrique de l'Ouest, je voulais vous lire les mots de l'ethnobotaniste Elisabeth Lesiak. Elle a fini sa thèse en 2007. C'était une thèse en ethnobotanique sur le palmier en Guinée-Maritime. Et elle nous dit « L'huile rouge est un fétiche. Elle est manipulée dans les pratiques magiques alors que les guérisseurs enduisent de ce corps gras statuettes et objets aux frontières des mondes invisibles. La transformation de la pulpe ne représente qu'une des nombreuses variations du palmier. L'amande est aussi prélevée après chauffage et concassage des graines. Le savon noir, potasse extraite des cendres végétales associées à cette huile de palmiste, est un agent de purification. Le bain accompagne les traitements de la médecine traditionnelle. Certaines étapes de vie, des états physiologiques particuliers, autant de situations qui nécessitent dans une certaine mesure de se libérer du mal ou de se protéger. Au cours d'autres procédés thérapeutiques, la graine du palmier est déposée au fond du chaudron où se fait la décoction des médicinales, empêchant toute intervention des forces maléfiques. Les fonctions protectrices du palmier à huile sont ici mobilisées. Donc, cette plante et son huile ont longtemps été une source précieuse de trésorerie pour une certaine catégorie de femmes du golfe de Guinée. Et c'est surtout l'habitat privilégié des chimpanzés, ces grands singes d'Afrique. Dans les paysages de la brousse, bien après la mort d'un village, alors que les cases se sont dissoutes et que la noirceur des foyers était ensevelie, les bosquets villageois de palmiers à huile qui entouraient ces villages continuent de marquer ces endroits. Les humains n'y habitent plus. Le chimpanzé vient s'y goinfrer. Chimpanzé, humain, partagent en se succédant ces mêmes espaces. Le grand singe, dans sa gourmandise, participe lui aussi à disséminer le palmier sur son sillage. Il marque à son tour le paysage de ses pratiques et attire ainsi, derrière lui, les humains à la recherche de fruits pour leur huile de palme. La légende raconte d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps, le chimpanzé était un homme qui fut déchu, un cousin que l'on respecte et avec lequel on cohabite en Guinée. Pourtant, je m'imagine bien qu'en vous parlant du palmier à huile, avec autant de poésie, je vous fais tiquer depuis tout à l'heure. Quand on parle du palmier, ou plutôt de sa fameuse huile de palme, on pense à toute autre chose. Et je vous ai préparé un petit collage de ma fabrication. Je vous laisse écouter.
L'huile de palme est un trésor. C'est la plus onctueuse et surtout la moins chère. La planète est accro à une huile qui la détruit, un comble. La maison brûle, ou plutôt la forêt se consume à Bornéo, en Indonésie, pour laisser place nette à un désastre écologique, la monoculture.
Mais aujourd'hui, le poison des plantations de palmiers est dans le fleuve. Il n'y a que les étendues infinies des plantations d'huile de palme.
Il faut tâcher d'abord, pour ne pas déforester, d'utiliser l'huile qui a le meilleur rendement à l'hectare. Et là, c'est l'huile de palme.
Depuis peu, certains pensent avoir trouvé une parade, l'huile de palme durable. Une huile qui ne peut provenir que des surfaces agricoles existantes et non de la déforestation. C'est ce que défend depuis des années le WWF.
On ne va pas tourner autour du pot. La qualité chez Nutra, c'est notre choix.
Et c'est plus que ça. Nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de Nutra.
Si vous aimez les singes et la pâte à tartiner, il existe un geste très simple, la confectionner vous-même.
L'huile de palme durable, foutaise. Pour faire pousser leurs palmiers, il faut avant tout brûler la forêt, sacrifier flore et faune.
Il y a des hommes dans ma forêt. et je ne sais pas quoi faire. Pour fabriquer ton shampoing, il la transforme en cimetière. Il y a des hommes dans ma forêt. Il ne manque vraiment pas d'air. Ils m'ont privé de ma mère et bientôt viendra mon tour. Il y a des hommes dans ma forêt. Elles se meurent jour après jour. Tout ça pour de l'huile de palme. Ta maison est bien plus calme.
Présent dans la moitié des produits de grande consommation.
Margarine, pizza pré-cuite, chocolat.
Biscottes, céréales, pâte à tartiner, viennoiserie.
Ouvrez l'œil et renoncez aux produits qui contiennent de l'huile de palme.
Vous connaissiez l'huile de palme dans les pâtes à tartiner, peut-être moins dans les moteurs de voiture. Pourtant, 75% des importations de cette huile servent à fabriquer du biocarburant. Le pétrolier Total, qui va ouvrir une raffinerie, va donc en importer 450 000 tonnes par an.
C'est pas Versailles.
La mesure est entrée en vigueur hier. L'Indonésie suspend toutes ses exportations d'huile de palme. Une huile critiquée, mais qui n'en demeure pas moins l'huile végétale la plus consommée au monde.
En dépit de sa réputation, épouvantable réputation, on peut le dire, l'agroalimentaire ne parvient pas à se passer de l'huile de palme.
L'approvisionnement de la population est la plus haute priorité, a dit le président indonésien. En tant que plus gros producteur d'huile de palme, il est ironique que nous ayons des difficultés à obtenir de l'huile de cuisson, explique-t-il. Alors,
la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la raffinerie de Total à La Mède, qui va utiliser de l'huile de palme importée de Malaisie et d'Indonésie pour fabriquer ses biocarburants. Nos agriculteurs craignent que ces importations viennent concurrencer nos productions de colza français. Au-delà de l'huile de palme, ils réclament...
Make our planet great again. Thank you.
Voilà, c'était un petit collage fait de pubs de multinationales qu'on ne nommera pas, de campagnes de Greenpeace, d'extraits de journaux télévisés et de chroniques radio. C'était pour rétablir un petit peu... la balance. Je sais bien ce qu'il y a l'huile de palme partout ailleurs. Et pourtant, c'était justement ça qui m'intrigue et qui me donnait envie de vous en parler. C'était cette autre palmier à huile, celui dont on ne parle pas, et, alors que celui dont on parle tout le temps, c'est celui qui, sur d'autres continents que celui africain, même si petit à petit, il y revient aussi, ce palmier qui a été transporté par le commerce des hommes et démultiplié sur des espaces considérés comme infinis. C'est l'huile de palme et c'est lui qui déforeste. Et il déforeste, il exproprie, il désertifie les sols, il transforme les agriculteurs en salariés asservis ou en capitaliste à succès. Et en tout cas, il finit toujours par régaler tout un chacun avec ses pesticides. C'est le rouleau compresseur du système plantation qui se met en branle. Et c'est celui-là qu'on connaît et qu'on raconte partout. Il déracine plantes et humains pour mieux les assigner à une tâche si étrange, celle du progrès, celui de la pâte à tartiner. La plante, le palmier, alors ne nourrit plus, n'habite plus, ne soigne plus et ne permet à personne de s'émanciper ou de glaner par-ci par-là des sources de trésorerie. La plante ne permet plus de cohabiter avec nos cousins les grands singes, ces hommes de la forêt, puisque c'est ainsi qu'on les nomme en indonésien. Orang-outan, orang-hutan, littéralement, orang, l'humain, hutan, la forêt. Les hommes de la forêt, nos voisins, ils sont juste compressés par la plantation, écrasés. Cette plante, le palmier, c'est plus tout à fait une plante libre que les hommes et les singes dispersent presque comme accident, comme bah, j'ai pu l'observer dans la brousse guinéenne. C'est un hybride. Attention, préparez-vous. C'est un hybride F1, une plante produite par et pour le système plantation, avec sa marque déposée. Donc, ce fameux palmier Dura se trouve être un extraordinairement productif et adapté au progrès. bien plus que son ancêtre, qui ondule lombrement, avec son plumeau au vent dans la brousse des pays guinéens. Cet hybride F1, c'est plus tout à fait une plante, c'est une marchandise. En Guinée, les palmiers du rat, qu'il faut acheter en pépinière, sont appelés les fotetougui. Littéralement, ça veut dire les palmiers des blancs. Ce sont les palmiers des autres. Ces humains, qui avaient allié leur destin à celui de cette plante, ne la reconnaissent plus et ils la décrivent désormais comme une plante étrangère. Je vous laisse avec ce petit conte en musique sur les orangs-outans des blaireaux de Ravel.
C'est une légende de Bornéo qui nous a inspiré cette chanson.
À Bornéo,
on raconte que les orangs-outans, les grands singes oranges, sont dotés de la parole comme vous et moi, messieurs, dames, et qu'ils refusent de parler pour éviter que l'homme les fasse travailler. Eh ben nous c'est pareil, nous on veut pas bosser, alors on va se taire. Pour plus faire exploiter, on va partir au loin. Oubliez votre chemin et toutes vos exigences. Nous, on s'en lave les mains. Laissez derrière nous tout ce fric, on s'en fout. Vos médailles à la con et vos promesses bidons. Car les jeux des gamins nous font bien plus rêver. Alors on joue aux singes et on va s'évader dans une petite forêt, sans banquier, sans prêt, qu'il faudrait rembourser sur une trentaine d'années. Elle était belle la vie du haut de notre arbre, mais il a fallu que vous nous retrouviez pour nous foutre en cage et nous faire payer nos rêves de partage et de communauté. On voulait pas bosser et pas participer au budget de ces bombes qu'on n'avait pas demandé. Mais le jeu du silence était bien cher payé. Aujourd'hui comme tout le monde, on a déchaîné nos pieds